Bonjour à tous, vous écoutez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine c'est VOA Afrique. À ce micro, je suis Mamadou Oumpha et Yassine Mounedjo est avec moi dans ce studio pour la co-présentation.
Bonjour Mamadou, chers auteurs, cette semaine parlons du VIH et surtout des difficultés d'accès aux médicaments antirétroviraux pour les personnes en zone rurale.
Une personne peut parcourir 400 km pour la première fête la plus près de chez elle. Généralement, ces personnes-là, ils vont pour des solutions. Une médecine, par exemple, rationnelle, va tout aller à visiter qui montre à la maître.
Au Cameroun, les autorités ont mis les efforts pour rendre accessible les médicaments les plus près du pays.
Pourquoi cette zone ne pas seulement les ARV se développent dans ce pays font les bénévoles pour remédier sur l'enfant de l'Empire du Cameroun frappé à l'idée. L'actualité avec un cholera. Bonjour, Charles. Alors, on s'en parle de l'épidémie de choléra, c'est dit au Nigeria. Une épidémie qui aurait fait 13 morts.
Tout à fait, Rosine, très récente, sont mortes de choléra après avoir bu de l'eau contaminée en IB dans le nord-est. On sait ce qui le dernier ministre local de l'Inté. Le ministre Monabé a ajouté qu'un total de 64 était resté fondé en mesure de l'épidémie dans l'Inde. Si je veux s'ouvrage, je dis en étudiant ici, en réception, en conflit, en ayant réussi des clients et des morceaux.
Et ce que c'est que les rats et
les rats d'aliments, donc aussi, les rats et les rats, si c'est que nous avons un peu de matière, pour que ça ait un peu de prêt, que le patient fasse plusieurs, si aucun n'est arrivé. La pression qu'on a, essentiellement une sorte de réhygiène, c'est avant, et peut-être pas en vue de l'eau table et en vue de l'eau, ainsi que
de l'aide. Parlons maintenant de l'AFNES et l'UNICEF, publié le 11 avril dernier, de nouvelles orientations pour favoriser cette forme d'alimentation pour les enfants.
Tout à fait, Rosine, ces orientations pratiques intitulées « 10 mesures en faveur d'un allaitement maternel réussi » s'inscrivent dans le cadre de l'initiative Hôpitaux Amis des bébés, lancée par les deux organisations en 1991. Elle encourage les mères qui viennent d'accoucher à allaiter au sein et informe l'agent de santé sur la meilleure façon de soutenir l'allaitement maternel. Pour l'OMS et l'UNICEF, l'allaitement au sein de tous les nourrissons jusqu'à l'âge de 2 ans permettrait de sauver plus de 820 000 enfants de moins de 5 ans chaque année. L'allaitement maternel permet non seulement de diminuer les dépenses des familles, mais il y a d'autres avantages sanitaires et sociaux. Il diminue les risques de mourir d'une diarrhée infection, améliore également le quotient intellectuel de l'enfant et réduit le risque de cancer du sein chez la mère.
Et bien, peux-tu nous dire exactement en quoi consistent ces nouvelles orientations?
Globalement, ces orientations précisent que les hôpitaux devraient disposer de politiques écrites en faveur de l'allaitement maternel. Elles recommandent également de faire un usage limité des substituts de lait, de pratiquer le grooming qui consiste à placer la mère et le nouveau-né dans la même chambre, de prêter attention aux réactions du nouveau-né pendant les tétés, prendre au grand comment utiliser le biberon et les tétines et d'apporter un soutien au moment où les mères et les nouveau-nés sortent de l'hôpital. En mettant en œuvre correctement ces mesures fondamentales, il est possible d'améliorer considérablement les taux d'allaitement dans le monde et de donner aux enfants le meilleur départ possible dans la vie, a déclaré Henrietta Fore, la directrice générale de l'UNICEF.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Terminons par une étude scientifique selon laquelle dormir tard a des conséquences sur la santé.
L'étude réalisée à partir d'une base de données publique est parue dans le journal spécialisé Chronobiologie Internationale. Selon l'étude, les couches tard ont plus tendance à souffrir de troubles psychologiques, de diabète, de troubles neurologiques, gastro-intestinaux et respiratoires. Ils ont également davantage tendance à fumer, boire de l'alcool, consommer de la caféine et des drogues illégales. Selon Christian Nixon de l'Université Northwestern de Chicago, co-auteur de l'article, l'autambule est une faute selon le président Autour de Dieu, et plus tard, on va bénéficier d'une flexibilité de règles de travail pour commencer et plus tard.
Merci, Charles.
Votre Santé, Votre Avenir, l'invité de la semaine.
Au milieu de l'année 2017, selon l'OMS, 1,9 million de personnes bénéficiaient d'un traitement antiviral dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, ce qui ne représente 5-3% des personnes qui vivent avec les gens de ces pays. D'ailleurs, même en personnes sous traitement antiviral, l'accès aux médicaments n'est pas toujours facile. C'est pour les patients vivant dans l'hôpital rural. Ces différents territoires n'ont pas de soucis. Or, ce type de plus de patients rurales, quand se déroule faire face à la situation, les conséquences des patients favorisent les patients et les gérants. Elle travaille par contre sur le mouvement logique, massager qui vient en cas de médicaments médicaux ou pas.
Dans cette localité, il y a un tel travail. On a noté des problèmes avec les citoyens par les personnes qui avaient été particulièrement
dans la ville. Alors, si c'est la et le problème des zones plus reculées pour les zones aisées, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a une difficulté de l'accès au TRV pour les personnes qui étaient au plus loin donc des UBEC, des unités de prise en charge, pour les personnes séropositives. On constate que quoi, si j'en ai un petit exemple, une personne qui, par exemple, se trouve dans un village, elle peut parcourir plus de 400 km pour atteindre la première UPEC plus près de chez elle. C'est des coûts, en fait, tout simplement pour ces malades-là qui n'ont pas forcément, parce qu'on a affaire à une population des plus précaires. Et donc, justement, c'est de trouver une solution pour ces communautés-là, ces communautés qui, malheureusement, sont souvent délaissées dans différents programmes, justement, qui sont mis en place.
Alors, dites-nous, comment est-ce que vous expliquez le déficit d'accès aux ARV selon les échanges que vous avez eus à fois avec les décideurs et les hôpitaux et les malades sur le terrain?
Alors, le premier, quand on va s'adresser au ministère de la Santé, parce que Jikmessa est un partenaire du ministère de la Santé, c'est vrai que le Cameroun connaît actuellement des ruptures de stock de traitement. Mais on peut voir qu'en ville, il n'y a pas cette difficulté justement pour les malades d'avoir accès à ces traitements. Donc la réelle difficulté qu'on constate, c'est justement le manque d'unités de prise en charge pour les séropositifs. C'est vraiment ça la difficulté. La deuxième difficulté aussi, c'est que l'État, il y a 2 ans, a mis en place des organisations qui assuraient la dispensation communautaire, donc c'est-à-dire la distribution des TARV. Mais on peut constater qu'encore aujourd'hui, en 2018, il y a très peu de dispensateurs justement communautaires, notamment dans les zones rurales. Donc nous, notre but justement dans les projets qu'on aimerait développer, c'est tout simplement amener aussi bien l'État et les différents programmes qui sont mis en place au Cameroun de développer davantage justement de dispensateurs communautaires qu'on permette aux OSCD, donc aux organisations de la société civile, de justement pouvoir distribuer maintenant les TARV à ces personnes-là.
Au-delà de la disponibilité des antirétroviraux, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui rendent difficile les traitements aux antirétroviraux chez les personnes qui vivent avec le VIH dans la zone que vous suivez actuellement?
Alors, vous savez que quand vous êtes séropositif, le meilleur des cas, c'est que vous faites partie de la ligne 1, c'est-à-dire que vous prenez un traitement qui est pris en charge par l'État et que vous avez une charge virale indétectable, donc que vous êtes relativement en bonne santé grâce à ce traitement. Mais ensuite, dans les autres cas, il y a beaucoup de personnes qui développent des maladies ensuite opportunistes et qui doivent donc se rendre à l'hôpital très régulièrement. Et on peut constater justement qu'il y a un vrai problème déjà au Cameroun en général de se rendre à l'hôpital. Il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes à cela. Et deuxièmement, bah justement, c'est l'accessibilité, le transport, la précarité de ces personnes-là qui ne peuvent pas se permettre de payer un plus de 10 000 francs CFA aller-retour pour aller à l'hôpital justement se soigner. Donc généralement, ces personnes-là, ils vont opter pour d'autres solutions, une médecine par exemple traditionnelle, etc., qui ne va pas toujours pallier à la difficulté qu'ils rencontrent face à la maladie.
Quelles sont donc les conséquences de ces difficultés d'accès aux antirétroviraux pour les personnes qui vivent avec le VIH-SIDA?
Les conséquences, c'est tout simplement des patients qui ont un virus qui va se développer, justement, une charge virale qui va être détectable, c'est-à-dire qui pourra être transmissible. Nous, on est vraiment axé aussi sur l'éducation sexuelle. Donc, effectivement, si les personnes ne sont pas assez sensibilisées à se protéger, etc., à avoir des comportements tout simplement sécuritaires, ils vont tout simplement transmettre le virus à leur entourage, enfin à la personne qu'ils vont côtoyer tout simplement. Et également, les maladies opportunistes qui peuvent amener au décès des personnes. Et c'est très triste en fait en 2018 de voir qu'on peut encore mourir du sida, ce qui ne devrait plus être le cas aujourd'hui.
Finir, Emeline, que compte faire votre organisation pour contribuer à l'accès aux antirétroviraux pour les personnes qui vivent avec le VIH-SIDA?
Moi, c'est pour ça que je suis ici au Cameroun actuellement. C'est pour aider justement Jikmessa à développer des projets viables et de poids dans la lutte contre le VIH et le SIDA, et leur permettre justement, grâce à ces projets, d'avoir un vrai plaidoyer de qualité auprès de l'État. Comme je l'ai dit précédemment, soutenir qu'il y a une réelle nécessité de développer les UPEC et développer des dispensateurs communautaires dans les zones rurales. Et nous, toute l'expertise, toute l'étude de terrain qu'on fait au quotidien à travers nos projets actuels, ça va mettre du temps d'avoir un plaidoyer fort face à l'État.
Nous remercions Emeline Girondin, les chargés d'aide au développement du Jikmessa, une ONG centrale au Cameroun, elle était au pôle de notre président, Jean Noé Kouam.
Les autorités camerounaises sont conscientes de ce que elles essaient d'élargir un peu la prise en charge thérapeutique des personnes vivant avec le VIH, y compris dans les zones rurales. C'est ce que nous a dit le docteur Balaron. Il a fait des vidéos d'un peu en rien de plus complètement d'argent. Lui, il a fait des vidéos. Il a cru de reconnaître le Honoré Kouam.
Le Cameroun en est-il souvent les problèmes de rupture de stock ou d'insuffisance antiretroviraux? Si oui, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène?
Bon, il y a très longtemps que le Cameroun n'a pas connu de problème de rupture en termes d'antiretroviraux. Comme vous le savez, il y a 3-5 ans avant, on parlait de rupture. Les patients n'avaient pas assez, on parlait de grève, les patients qui prenaient des médicaments. Mais ça a fait quand même un certain nombre d'années que les journalistes n'en parlent plus. Tout simplement parce que l'État et les partenaires ont fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Beaucoup d'efforts ont été faits dans la disponibilité des antiretroviraux par le Fonds mondial, qui est le principal bailleur de l'État et qui en fait une priorité, mais également par le PEPFAR, qui est le programme du président américain de lutte contre le sida, qui est en cours dans plusieurs pays africains. L'ensemble de ces partenaires s'est concentré pour que la disponibilité des antiretroviraux, histoire évidemment de rendre compte aux parties d'État, mais en on n'a plus de plus de
trouver. Comment est-ce que ça s'organise la distribution
des antiretroviraux
au Cameroun?
Les antiretroviraux suivent un problème parcours celui des médicaments essentiels. Ça veut dire qu'on a un chemin d'achat qui est dynamique. Le programme national de contrôle ça, c'est des commandes au niveau de la CNAME. Pour pouvoir créer des antiretroviraux, évidemment, sur le financement du canon des citoyens. Après avoir reçu les stocks d'antiretroviraux, ils sont distribués au niveau des centrales d'approvisionnement journaux dans les cadres. Enseignement de cadres qui sont en journée de promotion de la santé, selon évidemment la commande passée par chaque région et selon la disponibilité. Et les formations sanitaires vont également venir s'approvisionner au niveau des fonds régionaux pour la santé après avoir passé les commandes au groupe technique régional. Le groupe technique régional va recevoir la commande de la formation sanitaire. Il va la valider et ensuite il va transmettre au fonds journal qui va livrer les médicaments. Donc c'est à peu près comme ça que le circuit des antiretroviraux est organisé de manière globale.
Que fait justement votre structure, le programme national lutte contre les sida pour faciliter l'accès des patients des zones rurales aux antiretroviraux?
Là également, l'État et ses partenaires ont fait beaucoup d'efforts. Pour les patients qui sont en zone rurale, évidemment, l'accès aux médicaments, c'est un problème. C'est vrai, c'est un problème. Généralement, pour les formateurs sanitaires qui sont en milieu urbain, dans l'accessibilité au fond des rues facile, directement au niveau des fonds. S'ils sont dans les zones rurales, le fonds dispose des véhicules qui peuvent aller directement livrer physiquement aux des formations sanitaires. Et les réseaux vidéo répondent également aux mêmes critères. Là, nous sommes pratiquement dans la région de l'Est. Et les responsables du fonds des journaux de l'Est, pour toi, c'est des dispositions pour qu'ils demandent à l'utilisation de l'agence, Alors, que, par exemple, il y a un besoin de dépressions jour. Mais comment est-ce qu'il faut demander des formations sanitaires pour se faire approvisionner et les remonter à ces magasins? Maintenant, là, c'est le problème de la dispensation. Ça veut dire que la portion sanitaire est là. C'est assez niveau encore que nous sommes en train de travailler pour améliorer pour que le médicament soit effectivement disponible aux patients.
Enfin, docteur, quelles sont les politiques à long terme pour éviter que le Cameroun ne soit victime des problèmes liés à la disponibilité des antirétroviraux?
Il faut déjà rappeler que le Cameroun suit un agenda international qui est celui des 3-90, à savoir 90% des personnes séropositives doivent connaître leur statut, au moins 4%. Au moins 90% des personnes qui connaissent doivent être tenues sous traitement. Au moins 90% des personnes qui doivent avoir une charge de rein d'État. Cela suppose que les moyens soient effectivement disponibles. Alors là, mais pour les moyens ne de se fait le centre a signé un nouveau partenariat avec le Fonds mondial qui a mis en un certain nombre pour la ludisme et la tuberculose et par son taille d'émis pour garantir les médicaments. Ensuite, on est en 2020 et elle ça a été médicament et puis encore ça a été les médicaments sans en sécurité un pense que la réponse était plus la mission mais qui constate plus la maman en réancène et son enfant actuellement toutes les formations sanitaires tout en charge même les âges c'est qu'il garde avancer ça veut dire que évidemment sur des ordres disponibles dans toutes les formations sanitaires de la vie et vous savez que l'État fait beaucoup d'efforts en matière de construction de formation sanitaire, d'équipement, c'est bien un bâtiment à 15 km au maximum de une formation sanitaire. À partir de cela, la politique de centralisation, c'est autre traitement. Le développement, la prestation de médicaments n'est plus dans les mêmes structures. C'est-à-dire que là, on peut mettre une politique ou une association de lutte sur les structures en français et médicaments. C'est-à-dire l'association qui serait la formation sanitaire et une prise en charge. Et au lieu de l'aide à la prise en charge, il n'y aura plus de transmission en association, si on a un rapport aux unités de prise en charge. Donc nous, en sorte qu'avec cette politique-là, les médicaments actuellement s'activent aux populations, institutions, dans les rues. Avec cela également, nous testons comment nous pouvons les intérêts sociaux. Et les compétences professionnelles. Donc, le rôle est justement d'accompagner les mâles à pouvoir en faire une expérience sociale. Parce que vous le savez, prise en charge vierge n'est pas uniquement médicamenteuse, vraiment psychosociale, également nutritionnelle. Alors, on a en œuvre un programme pour les compétences qui sont les communautaires. Et dans certaines localités où le patient ne peut vraiment pas arriver au niveau de la formation sanitaire, parfois c'est la compétence professionnelle qui ira délivrer le traitement à son ministère. Donc, autant de politiques qui sont déjà soit mises en œuvre, soit testées, pour que le médicament soit accessible le plus possible en zone rurale.
Nous remercions le docteur Baléba Robin pour son témoignage. Un témoignage recueilli par notre correspondant Joël Honoré Kouam.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Sur cette heure, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Amar Nguenkap, a répondu à vos questions. Le docteur Nguenkap est médecin urgentiste et praticien au Centre Hospitalier Universitaire de Soissons, en France.
Allô, bonjour.
Allô, oui, bonjour.
C'est qui à l'appareil?
Hassan Omar Boulal.
Hassan, vous vous appelez d'où?
Du Djibouti.
Du Djibouti.
Oui, tout à fait.
Vous avez une question?
Oui, tout à fait. J'ai un père qui a eu une situation sur la
poste.
Oui, concrètement, il a fait une guérison. Mais le problème, il s'est fait régler. Une crise, c'est une île, voilà. Donc, comment faire, en fait, apporter des traitements sur ça, et à chaque fois, ça revient. S'il arrête le traitement, rien, si tu ne sais pas, il a tout le corps qui est rouge, il vomit. Où vient le problème? Et est-ce que, par exemple, il y a des associations qui peuvent nous aider à amener à l'extérieur, donc à avoir un voyage médical à l'extérieur?
Merci beaucoup d'avoir appelé. Docteur Ngakap est là pour vous répondre.
Ce que je veux préciser, c'est que la tuberculose est une infection bactérienne qui affecte surtout les poumons. Il peut également avoir d'autres localisations. La localisation cérébrale intervient comme une complication de la tuberculose dans son sang. Les crises épileptiques, très souvent, ne sont pas en rapport avec les effets secondaires du traitement. Ils sont plutôt l'expression symptomatique de cette tuberculose au niveau, qui siège au niveau du cerveau. C'est pour cette raison que je préviens les rechutes que nous le passons à notre frère. Le frère, si le traitement peut, avec un aspect de la pression, avoir la pathologie, les prescriptions, la durée de pression qui pourra laisser à demain. Et maintenant, on va réaliser les essais aussi en chirurgie. Ce qu'on témoigne, non, peut-être pas, parce qu'il existe encore des fois le tuto, c'est moi qui s'appuie. C'est parce que je l'ai vu vraiment à rebondir sur le corps pour aller résister qu'il existe. Répétition sur la manipulation du tuto cérébral, il existe encore. Et c'est le tuto cérébral qui, heureusement, n'est pas complètement guéri. Par ailleurs, les modes de l'éducation, c'est une recherche de tuto cérébral par rapport avec un état d'hyper. Dès que tu vois, j'ai pensé à mes soins, c'est pour le point par rapport à la 14 associations qu'il souhaite avoir. Il faudrait d'abord connaître le motif de l'éventuelle évacuation sanitaire. Ce n'est que lorsqu'on connaît le motif d'une éventuelle évacuation sanitaire, on peut proposer une éventuelle association. Et pour ma part, je pense qu'à Djibouti, il y a des compétences et les moyens pour pouvoir prendre en charge une tuberculose cérébrale, y compris une tuberculose cérébrale qui présente des effets atypiques.
Quel est l'avenir de ces communautés? Comment bénéficier de cuisine gouvernement ou dans leur pays?
Quelle est votre santé pour l'avenir? VOA Afrique avec Rose Mulibigo.
Et moi, enfin, samedi à 8h30, temps universel.
Votre santé et votre avenir.
Je suis malade, docteur. Je souffre de la sinusite. Que dois-je faire pour guérir?
Ce que je réponds à ce auditeur, c'est que dans un premier temps, les sinus sont des cavités osseuses qui sont situées au niveau des os du visage, notamment à l'arrière des fosses nasales et qui communiquent d'ailleurs avec les fosses nasales. La sinusite va être l'inflammation de la muqueuse de ces cavités osseuses, enfin, la muqueuse des sinus. Très souvent, ce sont les sinus maxillaires et le sinus frontal qui vont très souvent être touchés par une infection qui peut être virale, une infection qui est bactérienne. Les causes de ces sinus sont souvent, en dehors de ces causes virales et bactériennes, des causes également allergiques. Le fait d'être prédisposé à des rhinites allergiques vont être facteurs de risque de sinusite. On a aussi des problèmes de déviation de la zone nasale, aussi des problèmes d'infection dentaire, de sédentaire. Et des personnes qui font régulièrement des rhinopharyngites exposées à faire des sinusites. Pour ceux qui voulaient savoir comment débarrasser de la sinusite, moi je sais que la première chose, c'est que ce auditeur doit consulter un médecin pour qu'il puisse faire un diagnostic précis de cette sinusite-là et des causes de cette sinusite-là pour mettre en place un traitement adéquat. Mais dans l'attente, je peux bien le rassurer en lui faisant comprendre que près de 75% des notamment les sinusites virales, vont guérir toutes seules au bout de quelques semaines. Mais cet auditeur peut aussi accélérer la guérison de sa sinusite en faisant un lavage du nez fréquent, qu'il a fait son avec du sérum biologique, exactement, et en faisant des inhalations à des vapeurs d'eau salée. Ça voit qu'il met peu de sel dans de l'eau qu'il va chauffer et il va essayer d'inhaler dans cette eau salée-là. Et ça permet de dégager les sinusites en bien dégageant les fosses nasales. Et ça permet de guérir, d'accélérer la guérison du mode de la sinusite. Là, ce que je pourrais rendre à ce auditeur par rapport à la sinusite et tout ce dont il voudrait s'embarrasser.
Si vous avez des questions ou des rapports à télé sur la page Facebook BOA Afrique, par ailleurs, regardez vers la télé de ce programme qui sera diffusé sur cette Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voafrique.com, et sur nos télévisions partenaires.
C'est ici pour prendre votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée au problème d'accès aux ARV par les personnes vivant avec le VIH-SIDA dans les zones rurales. Pour en parler, nous avons reçu comme invité Emeline Jondin, chargée d'aide au développement du GMASA, une ONG qui vient en aide aux malades de certains villages du Cameroun. Elle nous a parlé des difficultés auxquelles font face les VVV d'une petite localité camerounaise, tout en nous révélant comment son ONG vient en aide à ces malades. Nous avons aussi écouté Dr Baleba Ouba, coordinateur régional de la lutte contre le sida dans la région de l'Est, l'une des régions les plus enclavées du Cameroun. Il nous a expliqué les efforts du gouvernement pour rendre accessibles les médicaments aux populations des zones rurales. Nous disons merci.
Merci également à Thierry Oda qui était avec nous pour vous présenter les événements sur l'actualité santé. Un grand merci à nos différents correspondants RDC, Galina Bashi, Béroma Tanda, Kisha et Erika Soussi à Bénisson et des préparations de cette édition. L'édition réalisée avec le concours de Tchèque Carlson qui était à la console. À la présentation, c'était avec Rosine Mounezéo et j'étais accompagnée de Connecté de ma fille, je vous votre santé. C'est votre avenir. À très vite.
C'était une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, trouvez-nous sur voafrique.com sur notre page Facebook VOA Afrique.